Bonjour. Donc, je vous rappelle ce que j'ai fait là, la semaine dernière. Je vous avais montré ces fragments de kératocytes qui étaient détachés de la surface du kératocyte. Et j'avais étudié la stabilité. Et puis, je vous avais donné des modèles qui ne reproduisaient pas exactement les formes qu'on trouvait, mais des fragments qui se déplaçaient à vitesse constante. Et je vous avais montré qu'ils se déplaçaient à peu près avec la vitesse des kératocytes. Et puis, qu'ils avaient cette forme en espèce de canoë qui ressemble à celle des kératocytes. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler du kératocyte lui-même. Je vais commencer un peu par des généralités, puis après, je vous montrerai deux façons de regarder le problème du kératocyte. Alors, j'ai appelé ça mouvement de l'amélipode. Et je vais commencer, comme commencent toutes les revues, presque tous les articles qui parlent de cellules qui rampent sur une surface, parce que les gens appellent le mécanisme d'Abercrombie. Alors, c'est tiré ça d'une quelque chose qui s'appelle la Croonian Lecture, qui est une de ces lectures que les universités britanniques aiment bien, qui se renouvelle tous les ans. Et Abercrombie, dans ce cours donc, qui date de 1978, a discuté le mouvement de cellules qui rampent sur une surface. L'article est extrêmement intéressant, extrêmement important à lire. Je vais simplement le résumer de façon très, très rapide. En gros, ce qu'il dit, c'est que quand l'amélipode rampe sur une surface comme ça, il y a quatre étapes. Alors, il y a une première étape qu'il appelle la protrusion. Ça, c'est ce qui se passe à l'avant. Donc, c'est la première étape qui est là. C'est les filaments d'actine qui vont pousser sur la membrane et il parle de force de polymérisation. Le langage de force de polymérisation, c'est un langage que j'aime pas trop. La polarisation exerce pas de force. Ce qui se passe, c'est que quand on comprime un filament des deux côtés, donc on applique une force extérieure sur le filament, ça modifie la vitesse de polymérisation. Donc il y a protrusion à l'avant. La deuxième étape, c'est une étape d'adhésion. Donc, c'est ce qui se passe ici. Il y a formation d'adhésion à l'endroit où l'actine a progressé. Donc les adhésions, c'est basé sur les intégrines, qui sont ces molécules vertes ici. Ensuite, à l'arrière du kératocyte, il y a détachement des adhésions. Donc, il y a la troisième étape, le C là, où les adhésions à l'arrière se défont. Et puis, il y a une contraction de l'arrière qui est due à la contractilité de l'actine et au moteur moléculaire qui contracte l'actine. Donc ça, c'est ce qu'on lit dans l'article, dans le compte-rendu de cette leçon d'Abercrombie. Il y a des articles de revues plus récents qui donne une version un peu plus moderne de la même chose. Il y en a deux qui moi, m'ont intéressé. Il y en a un de Dan Houser et Hall en 2014. Il y en a un de Gardel et Hall en 2010, mais ils commencent tous les deux par cet exposé d'Abercrombie. Alors, je vais vous donner d'autres données expérimentales. Depuis, il y a des méthodes expérimentales bien plus sophistiquées qui ont été mises au point. Et en utilisant notamment des méthodes de grande résolution optique, on arrive à avoir une image très très précise sur ce qui se passe au bout du lamellipode. Alors, ce n'est pas des kératocytes, ça, hein, c'est des cellules dans les deux expériences qui sont soit des cellules épithéliales, soit des neutrophiles. Il y a deux articles, moi, qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est un article d'Alexandre Vital, c'est Sacha Bersetsky qui est derrière cet article-là. Je vais vous montrer ce film. Donc ça, c'est l'avant d'une cellule. Vous voyez qu'il y a des fibres d'actine, et puis il va y avoir un mouvement. La cellule avance ici, il va y avoir un mouvement rétrograde, un peu comme celui dont j'ai déjà parlé. Et ce qu'on voit très très clairement, c'est qu'il y a deux régions. Il y a une région où l'écoulement rétrograde est très rapide. Alors, il faut que je le remette. Il y a une région où le mouvement rétrograde est très rapide, qui est tout au bord, qui est ce qu'ils appellent le lamellipode. Et puis il y a une région un peu en arrière, qui commence ici, où le mouvement rétrograde est beaucoup plus lent et qu'ils appellent la lamelle. Alors ce à quoi se sont intéressés Alexandrova et ses collaborateurs, c'est à l'adhésion des cellules. Et ce qui montre, c'est que les points d'adhésion, ou les points où les cellules adhèrent, sont très différents dans le lamellipode et dans la lamelle. Les adhésions ne sont pas matures, ils appellent ça des points focaux dans le lamellipode, donc ils sont moins forts et c'est là que l'écoulement est plus rapide. Puis les adhésions matures, et dans cette région ici de la lamelle, on a vraiment affaire à des adhésions focales qui sont des régions d'adhésion forte. Donc il y a cette idée qui, à mon avis, n'existait pas avant cet article-là. Et puis il y a un deuxième article qui m'a beaucoup marqué, c'est cet article-là. Ça, c'est le groupe de Jennifer Lippincott-Schwarz. Elle, ce qu'elle fait, c'est de la microscopie actite à haute résolution, donc c'est de la speckle microscopie. Et elle a regardé, ça c'est ce qui correspond à cette région-là, donc c'est le lamellipode. Vous voyez l'organisation de l'actine qui est grandie ici. Ça, c'est de la microscopie électronique, je crois. Et puis à l'arrière, vous avez la lamelle, et vous voyez que déjà dans ces deux régions-là, l'organisation de l'actine n'est pas du tout la même. Et après, ce qu'elle décrit en très grand détail, et que je ne vais pas décrire moi ici, c'est la façon dont se forment les protrusions ici, et la façon dont, quand la cellule avance, l'actine s'organise, et comment elle change de conformation entre cette conformation qui est vraiment un réseau qui est complètement au bord de la cellule, et celle-là où l'actine forme un peu des arcs, et elle décrit très très en détail de cette formation d'arcs. Donc on connaît des choses qui sont très très détaillées. Je ne vais pas du tout rentrer, moi, dans ces choses détaillées-là, mais il faut savoir qu'on sait des choses que j'oublie un peu volontairement et qui sont peut-être importantes quand on veut descendre à un certain niveau de détail. Donc voilà un peu les généralités sur le mouvement de la lamellipode. Je vais redire quelque chose sur les kératocytes. Donc ces kératocytes, c'est les cellules de la peau du poisson qui sont des... Je vous en ai déjà montré deux fois, je ne vais pas vous en montrer un troisième, mais c'est des cellules qui avancent, qui sont très très plates et qui avancent sur une surface solide. Quand on travaillait là-dessus avec Jacques Roux, on avait l'habitude de dire que c'était les Ferrari des cellules, parce que c'est des cellules qui avancent très vite. Très vite, ça veut dire 10 microns par minute, ce qui n'est quand même pas excessif. Un intérêt pour moi, c'est qu'il y a pas mal de données quantitatives sur les kératocytes. Donc on a des mesures, et c'est ça que je vais vous montrer très brièvement maintenant. Alors les mesures que je vais prendre, elles viennent de deux équipes différentes. Il y a l'équipe de Verkhovski à Genève. Ce que fait Verkhovski, c'est encore une fois de la microscopie de speckle. Alors, ce n'est pas du tout mon expertise. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Ces images-là, qui sont les images réelles, sont un peu difficiles à voir. Ce qu'on voit ici, c'est le champ de vitesse sous la cellule. Donc, il arrive à mesurer le champ de vitesse de l'actine à la surface de la cellule. J'insiste sur le fait que tout ce que je vais dire aujourd'hui, je me place dans le référentiel du laboratoire. Ça veut dire que la cellule avance dans cette direction-là, et ce qu'on voit, c'est le mouvement de l'actine par rapport à la surface qui est en dessous. Et vous voyez que l'actine, si la cellule avance dans cette direction-là, elle est dans la direction opposée. Alors c'est un effet faible, hein, parce que je vous ai dit que la cellule, elle avançait à 10 microns par minute. La vitesse de l'actine, c'est plutôt 1 micron par minute. Il y a un endroit ici où ça avance plus vite. Quand on regarde les kératocytes qui bougent, on a même l'impression que ça tourne un peu comme ça sur les côtés. Donc ça, c'est cette région-là qui est ici. Ce que je vais regarder, moi, c'est surtout pourquoi l'écoulement va à l'envers du mouvement de la cellule. Ça, c'est ce qu'on a rencontré une fois déjà, que j'avais appelé un écoulement rétrograde. Donc, une grande partie de ce que je vais essayer de vous faire maintenant, ça va être de vous expliquer pourquoi il y a un écoulement rétrograde. Puis après, j'essaierai de rentrer dans plus de détails, de vous donner des ordres de grandeur, de discuter les paramètres qui influencent la motilité. Et puis, je vais revenir à cette histoire de forme des kératocytes. Alors, mon troisième point, c'est contractilité et écoulement rétrograde. J'ai fait que la moitié des choses, là. J'ai parlé du champ de vitesse sur la surface, mais ce que les gens ont mesuré aussi, c'est la contrainte sur la surface. Alors, la méthode, et je crois d'ailleurs que ça, c'est le travail de Dembo aux États-Unis. Je crois que c'est le premier à avoir fait ce genre d'expérience-là. Ce qu'il fait, c'est qu'il pose les kératocytes, non pas sur une surface dure, mais sur un gel, et il met des petites billes dans le gel. Si on crée des contraintes sur la surface, ça déforme le gel élastique qui est en dessous, ça fait bouger les petites billes, puis après, il faut remonter du mouvement des billes jusqu'à la force sur la surface. C'est un problème qui n'est pas très simple, parce que la propagation des contraintes élastiques, c'est à longue portée, hein, c'est une équation de Laplace. Donc il faut faire attention quand on inverse la formule, qu'il faut aller prendre des choses qui se passent très très loin. Donc si, en résolvant ce genre de choses, alors le premier auteur de cet article-là, c'est un monsieur qui s'appelle Oliver. Ce qu'on a, alors je ne vous ai pas mis, il y a une carte hein, aussi dans l'article d'Oliver, de champ de contrainte sur la surface. Ça, ce que ça nous donne, la contrainte sigma xz sur la surface, c'est l'interaction entre le cisaillement entre la surface et le kératocyte. Ça, c'est ce que j'ai appelé la friction jusque-là. Donc si j'écris qu'il y a une friction par unité de surface, je connais la contrainte sigma xz. Je connais la vitesse, et donc il y a un coefficient de friction, et en divisant la contrainte par le coefficient de friction, j'obtiens la contrainte par la vitesse, j'obtiens le coefficient de friction par unité de surface qui est là. Je ne vais pas vous donner des ordres de grandeur, je vous le donnerai sous une autre forme tout à l'heure, parce que je ne suis pas sûr que ça veuille dire grand-chose pour vous, des coefficients de friction en unité du système international. Le coefficient de friction, alors j'y reviendrai après, je vous montrerai pourquoi il y a une friction et pourquoi cette friction, ce n'est pas une friction, la viscosité simplement. Alors, j'ai aussi mis là la viscosité de l'actine. À l'intérieur de la cellule, il y a de l'actine. Quand je vous ai parlé d'actine jusque-là, je vous ai parlé de viscosité. Je n'ai jamais trop discuté les ordres de grandeur de la viscosité. Ça, c'est une mesure qui vient de solutions d'actine qui sont une densité, où les auteurs, qui sont le groupe de Joseph Kiesk et à Leipzig, pensent que ça correspond bien à ce qui peut se passer dans une cellule. La viscosité, c'est 10 puissance 5 pascal seconde. Ça veut dire que c'est 10 puissance 8 fois la viscosité de l'eau. Donc, si vous pensez à l'actine comme quelque chose qui coule, ça coule, mais ça coule 10 puissance 8 fois plus lentement que l'eau. Donc ça coule extrêmement très lentement. Quand on pose des polymères de cette viscosité-là sur la table, on peut aller faire autre chose, et quand on revient, ils se sont à peine étalés. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est vraiment très, très visqueux. Donc l'important de ça, c'est qu'on a vraiment des chiffres et qu'on pourra faire des comparaisons à partir de ces chiffres-là. Alors, je vais fermer ça, et je vais revenir donc aux écoulements rétrogrades et à la contractilité. Alors, je vais faire quelque chose d'un peu bizarre. Évidemment, c'est un problème à trois dimensions. Les kératocytes ont une épaisseur, c'est un micron ou un peu inférieur à un micron, la partie avant où il n'y a pas le corps cellulaire dans le kératocyte. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de regarder ce problème dans toute sa généralité à trois dimensions, je vais regarder deux problèmes à deux dimensions. Alors, je vais regarder un problème où je le regarde par la tranche. Alors, si je regarde déjà par-dessus, hein, ça va nous faire un truc comme ça. Ça, c'est le kératocyte qui avance. Il avance dans cette direction-là, mais il est posé sur le substrat, et il y a une certaine épaisseur du cytosquelette d'actine à l'intérieur de ce kératocyte. Il y a un corps cellulaire ici, qui est plus épais, et qu'on voit très bien sur les films que je vous ai montrés la fois précédente. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper une tranche. Et je vais commencer par là. Donc je vais découper une tranche ici, à peu près au centre, et je vais me contenter d'analyser cette tranche-là. Donc je la regarde par l'épaisseur, et puis je le fais à deux dimensions, ça sera ma direction X, et puis l'épaisseur dans l'autre sens, ça sera ma direction Z. Donc si je le trace maintenant dans le plan XZ, je vais essayer d'utiliser les mêmes couleurs. Donc voilà le substrat. Alors j'ai supposé qu'il est infiniment rigide, je vous dirai un mot après de ce qui se passe quand le substrat est mou. Puis ça a une forme qui est à peu près comme ça. Puis ici, il y a le corps cellulaire que je ne vais pas montrer, hein, qui est un objet un peu plus rigide, qui est traîné par le kératocyte. Donc c'est ça que je vais étudier. La cellule avance vers la gauche et elle avance à la vitesse moins U. Ça, c'est la convention que j'ai prise. C'était plus simple pour moi. Ça, c'est X. Ça, c'est Z. Il y a une hauteur que je vais appeler H de X ici. Et ce que je veux faire, c'est essayer de vous décrire le mouvement de ce kératocyte en utilisant exactement la même théorie que celle que je vous ai fait la dernière fois pour la couche d'actine. Donc je vais dire que c'est un fluide actif incompressible. En pratique, il est un peu compressible, bien sûr, hein, mais ça me simplifie beaucoup la vie et ça permet bien de voir ce qui se passe, de supposer qu'il est incompressible. Avant de faire ça, il faut que je discute la protrusion que je vous ai montrée, hein, qui était le premier mécanisme d'Abercrombie. Au bord, au moins, les filaments d'actine, je vais supposer qu'ils sont perpendiculaires à la paroi, donc c'est ce que j'avais appelé P. Puis il y a de la polymérisation et de la dépolymérisation. La polymérisation, on sait qu'elle se fait à l'avant. Et elle dépend de cette coordonnée X qui est là. En pratique, elle se fait sur la membrane ici. Donc on injecte des monomères d'actine, puis ça fait des filaments qui poussent. Ils bougent jusqu'à l'arrière et ils sont dépolymérisés à l'arrière. Donc je vais introduire une vitesse de polymérisation. Je vais appeler VP de X. Alors pourquoi ça polymérise ? Ça polymérise parce qu'il y a des protéines qui favorisent la polymérisation de l'actine ou qui initient la polymérisation de l'actine. Il y en a plusieurs. Celle que je connais, moi, elle s'appelle WASP, mais ce n'est pas très important, ou la formine, ce n'est pas très important. La façon dont on a estimé VP de X, c'est en disant que ben, ces protéines elles vont être transportées, elles vont être transportées le long des filaments d'actine, donc il y a un flux, et puis elles vont vouloir diffuser. Et ça, ça conduit à une loi exponentielle. Donc je vais écrire que VP de X, c'est un certain VP0 exponentielle moins X sur D. Et si on fait ce modèle naïf avec la vitesse des moteurs qu'on connaît et les coefficients de diffusion, en gros, D, c'est un micron. Donc ça polymérise ici. Et puis ça va dépolymériser à l'arrière. Alors pour me simplifier la vie, je vais supposer que ça dépolymérise au bord du corps cellulaire qui est ici. Et là, je vais appeler H0 la hauteur. Et donc il y a une vitesse VD à H0. En pratique, ça ne dépolymérise pas que à l'arrière, ça dépolymérise un peu en volume. J'avais pris l'autre approximation extrême quand j'ai discuté le fragment, où je supposais que localement, la dépolymérisation était proportionnelle à la densité. Ici, je vais me limiter à celle-là, qui est plutôt plus simple à expliquer. Donc, je vais faire exactement comme j'ai fait pour la couche corticale. Je vais écrire deux types d'équations. Je vais écrire un équilibre de force, et puis je vais écrire la conservation de la matière. Alors, l'équilibre des forces, avant de faire ça, je voulais vous citer autre chose. Évidemment, mon modèle de polymérisation, il n'est pas extrêmement sophistiqué, il est assez rustique. Il y a un article récent de Mathieu Denedon et Pierre Sens s'il est publié, moi j'ai trouvé qu'un préprint, mais qui n'est pas publié, mais où ils discutent en détail comment l'orientation locale... Évidemment, je dessine ça à une dimension, mais les filaments, ils peuvent fluctuer dans la direction perpendiculaire. Donc ça discute en détail comment l'orientation des filaments, le champ de vitesse et la polymérisation de l'actine interfèrent. Je ne vais surtout pas rentrer là-dedans, parce que ça me prendrait beaucoup de temps, mais cet article est joli et explique bien des effets qui peuvent se produire. Donc ce que je veux faire, c'est écrire l'équilibre des forces. Alors, ma méthode, c'est la même que l'autre jour. Je prends une tranche d'épaisseur dx et j'écris l'équilibre des forces sur cette tranche d'épaisseur dx. Alors, il y a la contrainte qui est exercée sur cette tranche d'épaisseur dx par la partie avant et par la partie arrière. Et je vous avais montré que la force totale, c'est l'intégrale de la contrainte xx sur l'épaisseur. Je vais refaire comme avant, donc je vais dire que c'est la hauteur fois la moyenne de la contrainte sigma xx. Donc ça, c'est la contrainte qui vient de la droite et de la gauche. Après, il y a une force de friction. Et puis, on peut imaginer d'autres forces. Alors, je vais en écrire une, que je vais oublier très vite, mais il y a une membrane ici, il y a une membrane en dessous, et ces membranes sont sous tension. Donc je vais appeler gamma n la tension de la membrane. Et puis je vais appeler gamma prime m ce qu'elle est juste en dessous. Donc la tension qui vient de la droite, elle tire ce morceau vers la droite. La tension qui vient de la gauche, elle tire ce morceau vers la gauche. Il faut que je projette la tension sur l'axe horizontal aussi, hein, parce que ce que je suis en train d'écrire, c'est l'équilibre des forces horizontales. Donc j'ai un plus d sur dx de gamma m cosinus θ plus gamma prime. Ça, c'est la définition de la tension, hein, c'est la force qui tire sur la membrane dans cette direction-là. Celle-là, elle tire de l'autre côté, c'est un petit peu incliné. Donc ce cosinus θ, c'est la projection sur l'axe horizontal de cette force-là. Et tout ça, c'est égal à zéro. Je vais oublier la tension pour l'instant, et puis ça aussi, je reviendrai brièvement après. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est vrai quand même, c'est que si je regarde sur des temps assez longs, quelques minutes, la tension est régulée par la cellule, donc la tension est à peu près constante. Donc ce terme-là a toutes les raisons d'être petit, et je ne vais pas l'écrire. Donc ça, ça me donne l'équilibre des forces. Il faut que je réécrive aussi ce que j'avais appelé la loi de comportement, hein, c'est-à-dire la façon dont la contrainte dépend de la vitesse. Alors, je vous rappelle qu'il y avait deux termes. Hein. C'est 4 états dv sur dx. Le 4, il vient du fait que j'ai supposé le système incompressible et que j'ai inclus... Ça, c'est la contrainte totale et il y a la pression à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a un facteur 4. Et puis, il y a la contrainte active. Alors, c'est pour ça que j'ai mis les filaments dans une seule direction. La contrainte active, c'est ce que j'avais appelé moins zeta delta mu. Et puis, c'est tout. Avec les approximations un peu sauvages que j'ai faites, je vous rappelle que cette contrainte active, pour le cytosquelette d'actine, elle est contractile. Elle tend à contracter le cytosquelette. Plutôt que ce que j'avais utilisé pour la couche d'actine corticale, je vais utiliser la force comme variable. C'est-à-dire que je vais poser F égale H sigma XX. Et puis si je réécris ça ici, ça fait F égale 4 eta H dV sur dX. Moins H zeta delta mu. Donc voilà pour l'équilibre des forces. La deuxième chose qu'il faut que j'écrive, c'est la conservation de l'actine. Alors la conservation d'actine, c'est simplement que localement, la dérivée du flux d'actine, elle est compensée par la polymérisation. Donc je vais écrire que d h sur dt plus d sur dx. Égale VP de X. Ça, c'est l'actine qui est transportée par le mouvement. Ça, c'est la variation locale de l'épaisseur. Et puis, j'injecte de la matière. Et ça, ça me compte toute la matière qui est dans cette tranche d'épaisseur H et de largeur DX. Je suppose que la cellule va à la vitesse moins U. Si elle va sans se déformer à la vitesse moins U, d sur dt, c'est moins u d sur dx. Donc ça, ça me dit que... Pardon, c'est moins la vitesse d sur dx, donc c'est plus u d sur dx. C'est pour ça que j'ai pris la vitesse moins u. Même. Donc ça, ça me dit que d sur dx de h fois u plus vx égale vp de x. Et ça, c'est simple, parce que je peux l'intégrer facilement. Ça me dit que H égale 1 sur U plus V de X, facteur de somme de 0 à X, de VP de X' dX'. VP de X, c'est quelque chose que je me suis donné, hein, c'est la loi avec laquelle je polymérise. Vous allez me dire, il risque d'y avoir un problème ici. Non, parce que ça, c'est 10 microns par minute, ça, c'est au maximum 1 micron par minute. Donc, même si V est négatif, je n'aurai pas de problème de divergence et de choses comme ça. Donc après, j'ai une équation ici, qui fait intervenir H et V. J'ai une équation ici, qui est dF sur dx égale 6V. J'ai une équation ici, qui est ma loi de comportement, qui me relie la force à la vitesse et à la contrainte active. Alors ça fait trois équations à trois inconnues, c'est super facile à résoudre. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai résolu numériquement. Donc je vais vous montrer, et ça prend pas longtemps. Hein. Voilà mes trois variables. Alors, la variable bleue, c'est l'épaisseur. Elle part de 0, elle augmente, après c'est assez plat, et puis ça monte un peu à l'arrière. La variable verte, c'est la vitesse. Alors la vitesse, elle fait deux choses. Elle est positive ici, mais la vitesse d'avancée vers la gauche est négative, donc j'ai bien un mouvement rétrograde. Et puis à l'arrière, elle est en sens opposé. Alors, elle ne peut pas être du même signe partout, parce que ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, je suis un peu monothématique et je le répète, mais c'est que la force extérieure totale doit être égale à 0, et la force extérieure là-dedans, c'est xiv. Donc l'intégrale de xiv doit être égale à 0. Et donc la vitesse... ici, j'ai une partie négative, positive, quelque part, j'ai une partie négative. Là, je trouve une partie à l'arrière qui est positive. S'il n'y a pas de force extérieure, donc je vais imposer le fait qu'il n'y a pas de force à l'avant et à l'arrière, la force extérieure totale est nulle. Ça veut dire que l'air de cette partie-là est égal à l'air de cette partie-là. Elles ne sont pas tout à fait symétriques. Celle-là, elle est plus grande et la vitesse est plus petite. Celle-là, elle est plus petite et la vitesse est plus grande. Et si je somme cet air-là et cet air-là, je dois trouver zéro. Et je trouve zéro parce qu'il n'y a pas de force extérieure. Ça veut dire que la force en 0 est égale à la force en L est égale à 0. Alors vous allez me dire, je suis optimiste, on peut penser à des tas de forces extérieures. Peut-être celles qui vont m'intéresser, c'est celles qui existent ici. Ici, j'ai une interface, donc il y a une tension ici, il y a une tension sur le solide de ce côté-là, il y a une tension sur le solide de ce côté-là, il y a un problème de mouillage. En général, les gens ne parlent pas trop de ce problème de brouillage-là. Si la membrane n'est pas trop attirée par la surface solide, c'est-à-dire si elle ne mouille pas trop la surface solide, la force de mouillage va jouer un rôle simplement tout au bout ici. Ça va un peu arrondir la forme ou changer la pente. Donc ça, c'est pas très grave. Si on considérait que la membrane mouillait complètement la surface solide, ça aurait des effets dramatiques qui, à ma connaissance, n'ont jamais été observés sur des cellules. Donc j'ai tendance à conclure que la membrane ne mouille pas trop la surface solide, qu'elle est plus ou moins neutre par rapport à la surface solide. Il y a un problème à l'arrière aussi. À l'arrière, il peut y avoir une force. Par exemple, la cellule tire sur le corps cellulaire. Le corps cellulaire, il va avoir une friction. Et donc, j'aurai une force qui vient de la friction du corps cellulaire. Ça, c'est facile. Si je change la force va augmenter. Je peux arrêter mon dessin ici. Et donc, ce que je fais, si je mets une force à l'arrière, c'est que je diminue cette partie qui est antérograde, qui va dans le sens de la vitesse. Et je la diminue de façon à ce que la somme de cette partie-là et la somme de cette partie-là soient exactement égales à la force qui est appliquée à l'arrière. Donc, j'oublie ce qui se passe à l'avant et j'étudie la force qui se passe à l'arrière. Pour vous montrer un peu plus ce qui se passe, et puis pour vous calculer les ordres de grandeur, je vais faire une approximation, j'allais dire une approximation de sauvage. Ce que je vais faire, c'est que je vais me placer à ce point-là, c'est-à-dire le point où la vitesse s'annule, et je vais supposer que la cellule est très très plate à cet endroit-là. Et puis je vais linéariser autour de l'épaisseur, donc au point où la vitesse est nulle, donc c'est Vx de mon point, je vais l'appeler x0, égale 0, et la hauteur, je vais l'appeler h-bar. Et puis, je vais supposer que les écarts à h-bar sont petits. Je vais remplacer h par h-bar partout dans mes équations. Donc, si je fais ça, je peux réécrire l'équation qui est là, la dérivée de la force. Donc, ça fait 4pi est à h-bar d2v. J'ai écrit dt, c'est dx. d2v sur dx2 égale xi fois v. La première chose, et c'est quelque chose que j'ai déjà dit, là aussi je me répète un peu, mais je le fais exprès, c'est que ici j'ai une dérivée seconde, donc si je dérive par xi, ça doit être une longueur au carré, et ça c'est ce que j'appelle la longueur d'écran hydrodynamique. Lambda 2 égale 4pi eta h-bar divisé par xi. Mon approximation, où je remplace h par la constante h-bar, elle est bonne si lambda est très petit devant la longueur du lamellipode. Il y a une longueur L ici. Et je vais supposer que lambda est très inférieur à elle. Avant que je continue, vous allez me dire, est-ce que je connais h-bar ? Ben, je connais h-bar parce que, comme je suis en régime stationnaire, le flux est conservé. Le flux injecte, c'est somme de 0 à x de vp de x dx. Et si la longueur ici sur laquelle décroît dp est assez petite, je peux remplacer x par l'infini. Donc ça, c'est la quantité de matière que j'injecte. Si je me place au bout ici, tout ce qui arrive doit être dépolymérisé. Donc ma hauteur h0, si je connais vd et vp, elle est simplement telle que somme de 0 à plus l'infini de vp de x dx est égale à h0 vd. Mais si mon point X est là, avec une hauteur h-bar, à cet endroit-là, la vitesse est nulle. Donc le flux à cet endroit-là, c'est juste la vitesse d'avancée de la cellule. Donc ça, c'est juste h-bar fois U. Alors si je calcule U, si je sais calculer U, je sais calculer h-bar. Je ne vous ai pas dit comment j'ai fait ça, parce qu'évidemment, j'ai triché. Je n'ai pas imposé la condition à l'arrière que ça arrivait à une hauteur h. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi la vitesse d'avancée et j'ai regardé le problème à l'envers. Donc j'ai imposé la vitesse d'avancée. Dans mes unités, c'était 5. Et puis ici, ça me fixe la hauteur à l'arrière. Et le flux à l'arrière, c'est simplement vd fois h0, où h0 est relié par ces conditions-là. Maintenant, cette équation-là, elle est extrêmement simple à résoudre. Donc c'est vx égale V0 exponentielle moins x sur lambda. Comment est-ce que je vais déterminer le V0? Je vais écrire que à l'avant, la contrainte est nulle. Autrement, il y aurait une force à l'avant, et s'il y a une force à l'avant, ça contredit mon hypothèse. Donc à l'avant, la contrainte est nulle. Alors, la contrainte, c'est 4 états dv sur dx moins état delta mu. Je vous laisse faire le calcul. Vous allez trouver que v de x, vx, c'est moins zeta delta mu lambda sur 4 états, exponentielle moins x sur lambda. Donc avec mon approximation un peu sauvage, ici, ça décroît exponentiellement et ça décroît sur cette épaisseur lambda. Vous pouvez refaire la même chose à l'arrière. Vous allez aussi trouver une exponentielle. Évidemment, le signe va être inversé. C'est contractile, donc ça, c'est négatif. Et la vitesse est bien positive ici. Donc à l'arrière, c'est plus cette fois. Zeta delta mu sur 4 theta. Alors, c'est peut-être pas 4 états. Si, c'est 4 états. Fois lambda. Fois exponentielle moins L moins X sur lambda. Ce que ça veut dire, ça, c'est que la décroissance à l'arrière, c'est la décroissance qui est parfaitement symétrique. Et avec mon approximation, j'ai rendu ces deux régions parfaitement symétriques. Si c'est parfaitement symétrique, c'est à peu près évident que la somme des deux forces est égale à zéro. Donc, je respecte bien mon équilibre des forces en faisant ça. Alors la force totale est nulle. Si la force totale est nulle, je peux essayer de regarder des moments de la force. Le moment de la force, ça va être, je vais l'appeler Q, c'est somme de xi vx x dx, ça c'est le premier moment. Le premier moment d'une force comme ça, c'est le dipôle de force. Je pourrais calculer le deuxième moment, qui serait un quadrupôle, etc. etc. Une remarque, c'est que la force exercée par le substrat sur la cellule, c'est moins que xiv. Donc ça, c'est la force exercée par la cellule sur le substrat. Alors, si je calcule ça, je vais trouver un dipôle de force qui est négatif. Je vais trouver que Q, c'est L, zeta delta mu h bar. Alors, je vais mettre à peu près égal, parce que j'avoue que je ne me suis pas inquiété de calculer le coefficient numérique, peut-être il y a un facteur 2. C'est pas très important. Le zeta delta mu, il vient de là. Le L, il vient de X. Puis après, le reste, il suffit de regarder ce qui se passe quand on fait l'intégration. C'est bien négatif. Donc ça veut dire que ce que fait la cellule, et c'est ce que je vous répète depuis le début, c'est qu'elle tire comme ça sur le substrat. La force de ce côté-là, qui est due à la vitesse au-dessus, elle est vers la droite. La force de ce côté-là, elle est vers la gauche, et donc elle contracte le substrat. Si vous faites ça sur des substrats mous, on arrive à faire plisser les substrats en posant des cellules dessus. Donc ça, c'est un dipôle contractile. Alors Q, c'est négatif. Parce que zeta delta mu, c'est négatif, c'est la contrainte est négative quand c'est contractile. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous donner des ordres de grandeur. Alors, je ne vais pas trop vous les justifier. Je vous ai montré comment je calculais xi. Je vous ai montré comment j'avais état. H bar, c'est à peu près un micron. Si vous prenez la valeur de xi, vous trouvez lambda égale 6 microns. Donc U, c'est 10 micromètres. Maintenant, si vous regardez la vitesse à l'arrière, le flux est conservé à l'arrière, donc on doit avoir U plus VD, U plus VX de L, ça c'est le flux qui arrive, qui est égal à VD. Ça veut dire que U, c'est VD ça, c'est la vitesse de dépolymérisation. La vitesse de dépolymérisation, elle est due à ce que j'ai appelé le treadmilling de l'actine. Donc, ce qui fait la vitesse d'avancée, c'est la vitesse de dépolymérisation. Comme je vous ai écrit cette loi de conservation qui est quelque part, c'est la vitesse de polymérisation. Je peux écrire ça en fonction de la vitesse de polymérisation et de la hauteur que j'ai trouvée ici. Il y a une correction. Alors, il y a une correction Vx de L. Vx de L, c'est la vitesse de ce côté-là. Elle est négative. Donc ça veut dire que la vitesse de la cellule, c'est presque la vitesse de dépolymérisation, c'est la vitesse de dépolymérisation plus quelque chose. Qui plus est, le quelque chose, je le connais. Est-ce qu'il est là? Donc c'est Vx de, c'est Vd plus zeta delta nu. Lambda sur 4 états. Le point sur lequel je veux insister, c'est que le treadmilling de l'actine, ça dépend vraiment que des moteurs moléculaires et de l'actine, ça dépend de la contrainte active, ça dépend de la viscosité, et ça dépend de la friction. Donc la protrusion ne joue pas sur l'écoulement rétrograde, ce qui fixe l'écoulement rétrograde, c'est la contractilité. Par contre, si je néglige ce terme-là, U, c'est VD, et ce qui fixe la vitesse d'avancée, c'est la polymérisation et la dépolymérisation. Donc le treadmilling, ou ce que Abercrombie appelait la protrusion, c'est ça qui fixe la vitesse d'avancée de la cellule. C'est 10 fois plus grand que ce terme-là, et ce terme-là, qui est une petite correction positive, il est dû à l'écoulement rétrograde. Alors l'écoulement rétrograde, c'est cette vitesse-là, mais elle exerce une force quand même sur le substrat. Et ça, c'est dû à la contractilité. Donc là, il y a vraiment une séparation des propriétés. L'écoulement rétrograde, c'est la contractilité. La vitesse d'avancée. C'est la dépolymérisation. Qui est un peu ce à quoi je voulais arriver. Alors après, à partir de ça, je peux tout vous calculer. Par exemple, je peux calculer le dipôle de force, Q. Alors une force, ça se mesure en newton. Un dipôle de force, c'est une force fois une longueur. Une force fois une longueur, c'est une énergie, donc ça se mesure en joules, ça. Et c'est 10 moins 13 joules. C'est beaucoup, beaucoup plus grand que l'excitation thermique. Donc, je n'ai pas parlé de fluctuation thermique, mais elle joue absolument aucun rôle dans ce jeu-là. Donc, voilà ce que donne ce modèle, qui est certes assez simplifié, mais qui montre bien ce type de propriété, qui montre l'endroit où j'attends l'écoulement rétrograde. J'ai un écoulement rétrograde à l'arrière. Si je mets une friction sur le corps cellulaire, je fais disparaître l'écoulement qui est rétrograde à l'arrière. Et ce qui crée la force, c'est la tension qui est due au corps cellulaire. Avant que je m'arrête, je vais vous citer une propriété un peu bizarre, dont je ne suis pas sûr qu'elle est vraie, mais supposez que je tire sur l'arrière. Donc je tire sur le corps cellulaire à l'arrière. Je vais changer la vitesse, ça c'est évident pour tout le monde. La question c'est, est-ce que je vais accélérer la cellule ou est-ce que je vais décélérer la cellule? La propriété un peu étrange, c'est que si je tire à l'arrière, je tire sur quelque chose qui est en train de dépolymériser. Et quel que soit le livre que vous regardez qui vous parle de la dépolymérisation de l'actine, si vous tirez sur les filaments, vous les dépolymérisez. Donc si vous dépolymérisez, vous augmentez VD, et comme c'est ça qui contrôle la vitesse, ça aurait tendance à à accélérer la vitesse de la cellule quand on tire dessus à l'arrière. C'est évidemment un comportement qui n'est pas très stable, ça. Ça veut dire qu'il y a une mobilité, une fonction de réponse qui est négative pour une cellule comme ça. Je ne prétends pas que c'est le seul effet qui arrive, mais il y a au moins une raison pour laquelle il pourrait y avoir une anomalie de ce côté-là. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est discuter les autres... Oui, Thomas.
Ça a été mesuré, ça ?
Non, pas à ma connaissance. Oui ?
Dans ce modèle...
Là, je dis que la dépolymérisation, c'est une vitesse qui a lieu à un endroit près.
C'est un taux de dépolymérisation. Comment tu as plus cette équivalence de...
Alors, si c'est vraiment un taux de dépolymérisation, effectivement, j'ai plus de prédiction.
D'ailleurs, là, si tu dis que c'est la vitesse de dépolymérisation, tu fixes la vitesse, est-ce que c'est parce que tu as un état de steady state où la dépolymérisation est égale à la polymérisation ?
Alors, de toute façon, même si j'avais un taux, il faut que dans mon bilan ici... le flux que j'injecte soit égal au flux qui sort. Donc l'intégrale sur toute la partie où ça dépolymérise compensera la vitesse de polymérisation. Ça, c'est à peu près clair. Mais c'est pour ça que je tire à l'arrière. Parce que si je tire à l'avant, je modifierai la polymérisation. C'est plus compliqué à l'avant parce que j'ai cet effet-là que le truc revient à zéro. Donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé de ce qui se passe quand on met une force à l'avant. Les seules forces auxquelles j'ai réfléchi, comme je disais, c'est les forces capillaires. Si tu dis que ça mouille, ça va faire, et je suis bien placé pour savoir ces choses-là, ça va faire un film très mince qui s'étale à toute vitesse, et ça, il n'y a absolument aucune raison que ça existe. Donc les seules forces que je sais imaginer à l'avant, c'est ça. On pourrait aussi mettre une bille et tirer avec une force magnétique. Donc je voudrais discuter les autres paramètres qui pourraient influencer la mobilité et qui ne sont pas tout à fait négligeables dans beaucoup de cas. Alors, le premier paramètre que je veux discuter, donc c'est paramètre contrôlant la motilité. Alors, je vais les discuter assez vite, parce que vous allez voir que je vais citer des références à des gens qu'on a invités pour le colloque. Donc je vais laisser au colloque qu'on fera au mois de juin le soin de vous donner les détails sur ces points-là. Le premier, c'est le coefficient de friction. C'est la question de Françoise tout à l'heure. Alors vous allez me dire, je fais glisser un fluide sur un solide et avec ça, je vais pouvoir calculer le coefficient de friction. Il s'avère que c'est pas ça qui domine le coefficient de friction. Le coefficient de friction est dominé par un phénomène qu'on appelle la friction protéique. Ça, c'est un concept qui a été imaginé par un de nos collègues qui maintenant est à Paris 7, qui s'appelle Ken Sekimoto. Alors, je mets 90, je crois que c'est 94, hein, l'article original. Alors, c'est un phénomène qui existe dans ce domaine-là. Si vous regardez tous les problèmes de friction de polymères sur un substrat solide, le même mécanisme existe. Le même mécanisme a été inventé par d'autres gens. Les gens qui l'ont inventé pour la friction des polymères, ils s'appellent Lake et Thomas, et c'est même bien antérieur à Sekimoto. Donc, je vais le décrire dans ce contexte-là, mais il y a d'autres domaines de la physique où le même mécanisme a été invoqué. Donc je reprends, je vais me ramener à un problème qui est très très simple cette fois. Une surface solide, et puis dessus, je mets un filament d'actine. Et puis, je pense que pas mal d'entre vous en savent plutôt plus que moi sur ce sujet-là, vous savez que l'actine interagit avec la surface solide. Il y a des molécules sur la surface solide qui s'appellent des intégrines. Et puis, Thomas Lecuy pourra vous expliquer ça. Il y a des dizaines de protéines qui servent d'intermédiaires entre les intégrines et puis l'actine. Je vais faire un truc de physicien théoricien. Je vais remplacer toutes les couches d'un coup par un ressort. Donc, je vais mettre des ressorts. Donc il y a des protéines qui sont attachées, puis il y a des protéines qui sont détachées. Alors supposez que je bouge ce filament d'actine, qu'il avance à la vitesse V. Ça, c'est ma vitesse de trait de milling que j'avais tout à l'heure. Les ressorts qui ne sont pas attachés, il ne leur arrive rien parce qu'ils ne sentent pas la vitesse. Les ressorts qui sont attachés, ce bout-là bouge à la vitesse V, ce bout-là bouge à la vitesse 0, donc ils sont étirés. Mais ils ne sont pas attachés de façon permanente. À un moment, ils se décrochent. Quand ils se décrochent, leur énergie élastique est dissipée. Puis il y en a un autre qui s'accroche, qui est étiré, l'énergie élastique est dissipée. Et c'est ça le mécanisme de friction. C'est le fait que les protéines s'accrochent, s'étirent, elles stockent de l'énergie élastique, elle se décroche, elle dissipe l'énergie élastique. Et donc, si je veux le calculer, il faut que je calcule la force exercée par ce mécanisme-là. Alors, c'est assez simple. Je vais supposer qu'il y a un taux d'accrochage Kon, il y a un taux de décrochage Koff. Et pour l'instant, je suppose qu'ils ne dépendent pas de la force, donc c'est des constantes données. Vous m'accorderez que la fraction des protéines accrochées à l'actine, c'est Kon sur Kon plus Koff. Ça veut dire que si j'ai n protéines sur la surface, il y en aura kon sur k, enfin n protéines susceptibles de s'accrocher à ce filament d'actine, il y en aura kon n sur kon plus kof qui vont être vraiment accrochées. Et toutes celles qui sont accrochées, elles exercent une force. Donc la force pour un filament, alors il y a une sorte de constante de ressort, je vais l'appeler kappa, c'est F. Pour un filament, c'est kappa fois l'élongation du filament. Donc quand il s'accroche, il n'est pas étiré. Puis après, il est étiré, ça va à la vitesse V, et ça dure un temps qui est 1 sur Koff. Donc ça veut dire que l'étirement total, c'est V sur Koff. Plus ils restent accrochés, plus ils vont être étirés, plus ça va stocker d'énergie, et plus j'en dissiperai. Maintenant, si je regarde la force de friction, je vais l'appeler F. Alors, c'est le nombre de protéines qui peuvent s'accrocher par unité de surface, ça c'est, je vais l'appeler N, fois la fraction des protéines accrochées, Kon. Sur Kon plus Koff, fois la force exercée par un filament, fois Kappa V sur Koff. Et vous voyez que cette force-là, elle est bien proportionnelle à la vitesse, donc c'est bien une friction du type friction hydrodynamique comme j'ai écrit tout à l'heure, et j'ai qu'à lire le coefficient xi. Donc le coefficient de friction, c'est xi égale n kon sur kon plus kof fois 1 sur kof fois kappa. Et ça, c'est très grand par rapport à tous les coefficients de friction hydrodynamique que vous pourrez trouver par des ordres de grandeur. On a une estimation, je pourrais faire une estimation de ce coefficient de friction, si tant est que j'arrive à estimer les raideurs, ces fractions-là, elles sont plus ou moins connues. Ça oublie quelque chose, ça. Ça oublie ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est assez intuitif, c'est que si j'étire trop le filament, il va se décrocher plus vite. Donc ces filaments qui sont, si ces ressorts qui sont accrochés, ils sont soumis à une force. Si la force est trop grande, je vais les arracher, ils vont se décrocher plus vite. Donc ça veut dire que mon Koff, il dépend de la force. Alors on peut faire une théorie où Koff dépend de la force. Je vais encore une fois vous faire une théorie de sauvage. Je vais dire, mon filament il s'étire jusqu'à une taille maximale, et puis parce qu'il a une élasticité non linéaire, la force monte de façon gigantesque à cette taille maximale, et il se décroche instantanément. Ça veut dire que, au lieu de faire une dépendance en force, qui est un tout petit peu plus compliqué à faire et ce qui serait un peu plus compliqué à écrire, je vais dire qu'il y a une taille maximale, une élongation maximale. Et je vais l'appeler petit 1. Maintenant, le temps qu'on met pour aller à cette élongation maximale, c'est A sur V. Et donc ça veut dire que ça se décroche non pas un temps après un temps 1 sur K off, mais un temps A sur V. Ou si vous renversez l'affirmation que je viens de faire, ça veut dire qu'il y a un taux de décrochage effectif, que je vais appeler K off bar, V sur A, si tant est que j'attends l'élongation maximale. Donc ça, il faut que V soit suffisamment grand. Donc V doit être supérieur à A K off. Si V est plus petit que AK off, je peux utiliser cette loi-là. Si V est plus grand que AK off, je vais utiliser cette loi-là, mais en remplaçant K off par V sur A. Donc si V est supérieur à AK off, xi égale N Kon sur Kon plus V sur A fois A sur V que V typique kappa. Vous voyez que si V est suffisamment grand, ce terme-là va être petit, et donc le coefficient de friction, il décroît avec la vitesse, et il décroît comme 1 sur V2. Donc je peux tracer maintenant la force de friction par unité de surface, ou la contrainte, si vous voulez. C'est sigma xz en fonction de V. Ici, j'ai AK off. Alors, si V est plus petit que AK off, le coefficient de friction est constant, donc ça va linéairement. Si V est grand devant AK off, le coefficient de friction est en 1 sur V2. Si je multiplie par la vitesse, ça fait 1 sur V. Donc ça va faire un truc comme ça. Évidemment, la friction ne peut pas être nulle. À un moment, la friction directe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'est pas due à ces protéines-là, va finir par compter. Donc j'ai une autre composante. Ça, c'est la friction, je ne sais pas, xi0, je vais l'appeler. Et ça veut dire que la force de friction totale, elle est comme ça. Comment ?
C'est instable quand on a des champs.
C'est justement à ça que je voulais arriver. Si vous avez une force de friction qui est non monotone avec la vitesse, ça peut conduire à des instabilités. Ce n'est pas forcément le cas. Il faut que ça soit couplé à un ressort pour que ça conduise spécifiquement à des instabilités. Je ne vais pas aller plus loin. C'est là que je vais vous renvoyer à mon ami Pierre Sens, qui a utilisé exactement ce mécanisme-là sous un lamellipode, et qui a montré, effectivement, et ça, c'est typique des mouvements qu'on appelle stick-slip. Alors, comme je suis gentil avec vous, je ne vais pas vous montrer avec ma craie ce que c'est qu'un mouvement de stick-slip, mais si vous faites crisser la craie comme ça sur le tableau, c'est ça, un mouvement de stick-slip. En plus, je ne suis pas sûr de savoir y arriver. Donc, ça veut dire qu'il y a des instabilités, qu'il y a un mouvement de stick-slip. Il a même été un peu plus loin. Donc, ça, c'est PNAS 2021. Il a étudié la propagation d'ondes dans le lamellipode, cette fois à deux dimensions, hein, en le regardant par-dessus, des ondes qui se propagent et qui sont associées à ces phénomènes de stick-slip. Donc voilà un premier paramètre qui est important, qui est la friction, et ce mécanisme de friction protéique, qui est un mécanisme qui est bien connu, mais qui est un mécanisme que je trouve extrêmement intéressant. Le deuxième paramètre dont je n'ai pas parlé, alors je l'avais écrit dans l'équilibre des forces ici pour vous dire qu'il existait, c'est la tension de la membrane plasmique. Alors là, il y a plein d'effets auxquels on peut penser. Moi, j'en ai trouvé quatre et je ne suis pas sûr de les avoir tous. Le premier, c'est la pression de la place. Si vous avez une tension et que vous avez une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. La pression est plus grande à l'intérieur. Donc quand j'ai dérivé mon équation sur la contrainte, il aurait fallu que je mette cette pression de Laplace. Et la millipode, c'est extrêmement plat. Donc, j'ai même pas essayé de calculer les ordres de grandeur. C'est à peu près évident que cet effet est extrêmement petit. Donc, on va oublier ça. Il y a un deuxième effet qui est celui que j'avais écrit dans mon équilibre de force. C'est le fait que la tension peut varier avec la position. C'est ce qu'on appelle l'effet Marangoni. Ça aussi, comme la cellule régule sa tension, la tension va devenir très vite homogène, et je pense que c'est un effet faible. Il y a un troisième effet que j'ai déjà discuté, c'est qu'il n'y a pas que la tension de la membrane, il y a aussi les tensions associées avec le solide, c'est-à-dire entre le solide et la membrane et le solide et l'air. Ça, si vous voulez, c'est l'adhésion de la membrane sur le substrat. Je vous ai dit tout à l'heure que même si je ne sais pas le justifier directement physiquement, si je suppose que l'adhésion est trop forte, ça fait des choses qui ne sont absolument pas physiques et absolument pas ce qui est observé. Donc c'est le phénomène de mouillage. Donc ces trois-là, je vais les négliger. Il en reste un quatrième que j'ai plus ou moins mentionné tout à l'heure. Alors c'est l'inverse de celui que j'ai mentionné il n'y a pas longtemps, qui est que si la membrane... Alors je vais faire un dessin. Voilà la membrane cellulaire. Et puis il y a des filaments d'actine qui sont là. Ces filaments d'actine, ils sont en contact avec la membrane, donc il y a une force qui appuie sur eux, et quand on appuie sur un filament d'actine, la polymérisation est moins rapide. Donc ce que fait la membrane cellulaire, c'est qu'elle réduit la polymérisation. Ça, c'est le facteur VP0 que je vous avais mis tout à l'heure au début de la décroissance de la vitesse de polymérisation. Il va dépendre de la tension de membrane. Une façon, peut-être, je ne vais pas le faire en détail, mais on avait regardé ça avec Jacques Pro il y a quelques années pour ce qui se passait dans les cils de l'oreille. Vous avez des filaments qui poussent contre une membrane. Et ce qu'on avait montré, c'est que la vitesse de polymérisation VP... c'est une constante, moins quelque chose qui est dû à la tension de membrane. Alors ce qu'il faut mettre là, c'est gamma, la tension de membrane, gamma M, je l'ai appelé. Il faut diviser par la densité de filament. Alors la densité de filament, je ne la prends pas dans l'endroit où c'est courbé, je la prends un peu en dessous, c'est-à-dire à ce niveau-là, il y a une épaisseur constante, qu'est-ce que j'appelais H bar tout à l'heure, hein, quand c'est constant. Donc c'est le nombre de filaments qui traversent cette surface-là fois h-bar, donc sur n h-bar, puis il y a un coefficient lambda. Donc ça, c'est ce qui se passe quand la tension est faible. Si on augmente la tension, ça peut devenir très très non linéaire. Je vais vous montrer des résultats dans une minute où les gens prennent une loi extrêmement non linéaire. C'est-à-dire au lieu de prendre une loi qui est linéaire ici, ils disent que ça décroît comme une puissance, je ne sais pas combien, 7 ou 8 ou 6. Ça veut dire que c'est à peu près constant, puis ça tombe d'un coup. Donc les gens, enfin en tout cas l'article qui me paraît avoir étudié le plus en détail ces effets de réduction de la vitesse de polymérisation par la membrane, c'est Keren et al. Ça c'est un article dans Nature en 2009. Comme on était très bien inspiré avec Thomas Lecuit quand on a préparé le colloque, le théoricien qui a fait la théorie qui est là derrière, il s'appelle Alex Mogilner, il est à NYU, et il est aussi invité au colloque. Alors je vais vous expliquer en trois lignes, et puis je vais vous montrer des images de ce qu'ils ont fait. Donc ils regardent un kératocyte. Comme ça. Et puis ce qu'ils disent, c'est il y a un champ de vitesse au voisinage de l'avant qui est convergent vers le milieu. Alors, si vous revenez à mes vitesses dans le kératocyte qui sont là, moi je vous ai dit, je regarde ici, pas de chance. Je vous ai dit, je regarde au milieu ici, et si vous regardez au milieu, effectivement, la vitesse est à peu près dans l'axe. Si vous regardez sur le côté, la vitesse, hop, elle part comme ça. Donc ça veut dire qu'elle va ramener les filaments au milieu. Donc il dit, la densité N, qui est là, elle est plus grande au milieu. Si la densité N est plus grande au milieu, la vitesse de polymérisation va être plus grande, et le kératocyte est plus épais au milieu. Donc tout leur effet, c'est ça, c'est qu'on ramène les filaments vers le milieu de la cellule. Si on ramène les filaments vers le milieu de la cellule, il y en a plus qui poussent contre la membrane. Et ce que vous dit cette formule-là, c'est que ce terme-là est plus petit et donc ça polymérise plus. Et si ça polymérise plus, le kératocyte est plus épais ici que ce qu'il est là. Donc c'est ça leur effet. Alors après, ils l'ont étudié de façon un peu plus quantitative. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent beaucoup de formes expérimentales de kératocytes et ils décomposent la forme en modes normaux. Et ils ont quatre modes. Donc le premier, c'est celui qui est schématisé ici. Donc en moyenne, sur leur série de kératocytes, il y en avait 710. Ce mode-là, il code pour l'air total. Donc voilà les variations de forme quand vous changez l'air. Il y a un deuxième mode qui est associé à cet effet-là, au fait qu'on ramène les filaments au milieu et que la tension n'est pas homogène. Il y a un troisième mode, donc c'est celui-là, et je vais y revenir. Il y a un troisième mode ici, qui est l'importance du corps cellulaire qui est là. Et ça, c'est purement expérimental, c'est une analyse numérique des formes de kératocytes. Et puis il y en a un aussi, qui est que les formes peuvent ne pas être complètement symétriques. Et vous voyez qu'en gros, celui-là, il fait presque tout, il a 80%. Celui-là, qui est le mode qui est associé avec cet effet-là, il contribue quand même pour 11% de la forme. Donc l'amplitude du mode qu'ils ont mis, c'est à peu près 11%. Celui-là, il contribue pour 2%. Et celui-là, à l'œil, on voit que ce n'est pas très asymétrique. Donc il contribue pour encore moins. Puis après, ce qu'ils font, c'est qu'ils définissent un indice pour caractériser ce mode-là. Ils regardent la densité de filaments d'actine. Elle est maximale ici. Donc elle est maximale ici. Elle diminue jusque-là. Puis après, ils disent ici, ça va pas beaucoup compter. Donc ils prennent la densité de filaments d'actine en haut divisée par la densité de filaments d'actine sur les bords. Et en faisant leur analyse, ils arrivent à tracer ça en fonction de l'anisotropie de la cellule. Le rapport d'aspect de la cellule, c'est-à-dire qui est cette longueur-là divisée par ça. Ce qu'ils font, et qui, moi, la première fois que j'ai lu cet article, m'avait horriblement choqué, c'est qu'ils remplacent la cellule par un rectangle pour calculer l'anisotropie. Donc ça m'avait fait un peu sauter au plafond, mais le rectangle, il ne leur sert qu'à calculer cette chose-là, et après, ils reconstruisent les formes. Une fois qu'ils ont déterminé cet indice de polymérisation de l'actine, ils reconstruisent les formes à partir de ces choses-là, donc ils retrouvent des formes qui ressemblent parfaitement à celles du kératocyte. Donc c'est une espèce de mix entre théorie et expérience. Voilà ce qu'ils prédisent. Alors ils ont une formule, hein, puis voilà les points expérimentaux. À y réfléchir, c'est un peu choquant la première fois qu'on le voit, mais je crois que ce n'est pas idiot du tout. C'est-à-dire, c'est un moyen simple de définir un rapport d'aspect du kératocyte. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette deuxième propriété qui était la tension de la membrane. La troisième, je vais être encore plus bref, c'est l'élasticité du substrat. Alors Alors ça, c'est un peu le phénomène que, dans mon premier cours, j'avais appelé la durotaxie. Hein. La vitesse d'une cellule dépend de la rigidité du substrat sur lequel elle se trouve. Pour faire l'histoire très courte, on peut refaire tout le calcul que j'ai fait sur un substrat élastique. Évidemment, sur un substrat élastique, comme la cellule exerce des forces, les forces se propagent dans le substrat élastique, et il faut calculer ces forces en détail. C'est pas très simple. Il y a deux articles qui ont fait ça. On avait fait un premier article avec Ioannis Lelidis. Et puis il y a un article de Pierre Réchaud à Grenoble en 2021, où il y a à la fois des expériences et puis un modèle théorique qui est beaucoup plus précis que celui qu'on avait fait avec Ioannis Lelidis. Dans les deux cas, ce qu'on trouve à très grand module élastique, plus vous augmentez le module élastique, plus la vitesse est faible. Donc c'est ce que disent les calculs dans ces deux cas-là. Par contre, Pierre Réchaud, il a des variations non monotones, avec le module élastique, et il dit que ça, dans certains cas, c'est bien observé expérimentalement. Donc je vais m'arrêter là pour cette première partie. Si le module est très très grand. Il y a un pic. Et après, ça redescend. Exactement. C'est ça le résultat que retrouve Pierre Réchaud. Alors, la différence, c'est que nous, on l'avait vraiment fait à deux dimensions, c'est-à-dire on avait mis les adhésions sur des lignes. Lui, il l'a mis sur des points focaux d'adhésion. Il a ressommé tous les points focaux d'adhésion. Ce que je veux discuter dans la suite, et je vais commencer maintenant, c'est discuter la forme des kératocytes. Donc, au lieu de les regarder par la tranche, je vais les regarder par-dessus maintenant. Et là, ce que je vais faire, c'est... Il y a pas mal de modèles théoriques. Les gens ne regardent pas trop ce qu'ont fait les voisins, donc ça part un peu dans toutes les directions. Je vais vous en montrer trois. Un premier un peu en détail, parce que je trouve que la méthode théorique est assez intéressante et plutôt marrante. Ce que je veux faire, c'est essayer de vous montrer les limitations de tous ces modèles-là, qui font des hypothèses qui sont assez drastiques, à la fois au niveau de la physique et au niveau de la biologie. Donc la première méthode que je veux discuter, c'est les méthodes qu'on appelle les méthodes de champ de phase. Tous ces modèles-là considèrent le kératocyte à deux dimensions. C'est-à-dire, ce qu'ils regardent, c'est une image prise par-dessus. Alors après, les gens sont plus ou moins honnêtes. C'est-à-dire, il y en a qui disent que ça correspond à une cellule qui serait saucissonnée entre deux plaques parallèles. Et dans ce cas-là, c'est vraiment à deux dimensions. Il y a un des trois articles qui dit ça explicitement. Et puis, il y en a qui disent, de toute façon, le problème est bidimensionnel. La discussion qu'on a eue au dernier cours montre bien que ça pose quand même des problèmes que ça soit parfaitement bidimensionnel. Donc, dans cette méthode-là, le kératocyte est considéré comme étant complètement à deux dimensions. Voilà mon kératocyte. La méthode du champ de phase, c'est une méthode mathématiquement inattaquable au début, qui dit, ben, en fait, si je connais la surface, il y a deux régions, il y a un intérieur et un extérieur. Donc je vais introduire une variable phi, qui est phi égale 1 ici, et phi égale 0 ici. Et puis, si la membrane est infiniment fine, il y a un saut mathématiquement à cette épaisseur-là, ben en fait, la membrane n'est pas infiniment fine. Donc le passage de 1 à 0, je vais lui donner une certaine largeur. Et la façon dont ils le font, c'est qu'ils associent à ce phi une énergie libre, alors qui est complètement fictive, qui n'est absolument pas censée représenter un phénomène physique. Elle est censée reproduire le fait qu'à l'intérieur, c'est 1, à l'extérieur, c'est 0, et qu'au milieu, il y a une interface qui est très très petite. Donc il y a une énergie libre associée à phi. Je vais appeler ça une énergie libre fictive. Et l'énergie libre qu'ils prennent, alors je vais vous l'écrire et puis je vais vous expliquer pourquoi ils prennent ça. ils prennent une énergie F qui est égale à un nombre gamma qui, à la fin du jeu, va s'avérer être la tension de surface fois l'intégrale sur toute la surface d'une densité d'énergie libre. Alors, la densité d'énergie libre, elle a deux termes. Je les écris dans l'ordre. Epsilon sur 2, gradient phi au carré. Plus un certain f de phi. Et le f de phi, il faut le choisir avec une forme comme ça. Là, il y a 0. Là, il y a 1. Ça veut dire que si phi est homogène... C'est f de phi sur epsilon. Si phi est homogène, ce terme-là compte pas, et on va avoir 1 à l'intérieur et 0 à l'extérieur. Il y a un minimum qui est 0, il y a un minimum qui est 1. Donc si phi est homogène, j'ai bien les deux faces que je cherche, 0 et 1. Ça, c'est la même chose que les énergies libres qu'on décrit dans les fluides. Et la fonction f de phi qu'ils prennent, alors je ne la connais pas par cœur, c'est 18 fois phi 2 fois 1 moins phi au carré. Alors vous imaginez bien qu'on ne prend pas un facteur 18 comme ça sans bonne raison. Donc il y a une bonne raison. Si vous imaginez que ça c'est un fluide, où la concentration ça serait 0, et ça serait 0 à l'extérieur et 1 à l'intérieur, si vous tracez, maintenant vous coupez n'importe où, et vous tracez à une dimension. Comment ? Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. J'arrive sur epsilon immédiatement. Si je trace phi maintenant, donc ce que je veux, c'est que ça soit 1 ici, 0 ici, et puis il y a une petite région où ça passe de 1 à 0. Et ce que vous décrit epsilon, c'est la largeur de cette région-là. Donc il y a une largeur epsilon ici. Donc quand on est en dehors de l'interface, à l'extérieur on est là, à l'intérieur on est là, et puis quand on est dans l'interface, ça coûte de l'énergie, et l'énergie totale que ça coûte, c'est la tension de surface. Donc, comment ? Non, la largeur doit tendre vers zéro. C'est pour ça qu'il y a un sur epsilon ici, et un epsilon là, la largeur de la chose doit tendre vers zéro. Après, tout le monde sait faire ça. Hein. Pour avoir le profil ici, on minimise, il faut prendre la dérivée fonctionnelle ou les équations de Lagrange, enfin vous appelez ça comme vous voulez, mais la variation de phi avec la position, ça c'est z, pardon, phi est là, et z est là. Avec la position normale à l'interface, elle va satisfaire une équation qui est laplacien phi moins epsilon gradient carré phi plus f' de phi sur epsilon égale 0. Comme vous connaissez f qui est là, vous pouvez remettre là-dedans. Il s'avère que c'est choisi pour qu'on puisse faire le calcul explicitement. Après, vous reportez dans cette formule-là et ça vous donne la tension de surface. Et ce facteur 18, il est choisi miraculeusement pour que la tension de surface, ça soit gamma. Donc, ils ont deux paramètres dans leur modèle de champ de phase, la tension de surface et la largeur de l'interface. Et ils vont travailler dans la limite où la largeur de l'interface est égale à zéro. Maintenant, leur idée, c'est de dire, ben, si je déforme la surface qui est là, cette énergie-là, elle va changer. Formellement, je peux dériver cette énergie-là par rapport à la position du point où je le fais. Il y a une force de tension de surface parce que j'aurais changé la courbure et donc j'aurais changé la force localement. Donc à partir de cette énergie-là, ce qu'ils veulent calculer, c'est les forces exercées par la membrane qui sont dues aux déformations. Alors je vais le faire à l'envers. Je vais vous écrire la loi de la tension de surface et je vais vous montrer comment on relie ça à l'énergie qui est là. Alors. Ce qu'on sait, tous autant qu'on est, c'est que s'il y a une courbure localement, la différence de pression, c'est gamma fois la courbure. Alors, on pourrait remplacer ça en disant qu'il y a une force localisée sur l'interface qui est due, qui est la force de Laplace. Qui se place à un point de l'interface. Tout ce qui n'est pas sur l'interface, dans ce problème-là, on a envie de l'éliminer. Tout leur jeu, c'est de dire, je vais chercher cette fonction-là, et là où elle est égale à 1,5, c'est l'interface. Donc je me place en un point, il y a un vecteur normal, n, puis il y a une courbure que je vais appeler h, et la force de Laplace, c'est f. Alors c'est par unité de longueur, égale moins gamma h, ça c'est la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, fois le vecteur normal. Et tout le jeu, c'est d'écrire tout en fonction de phi, et à la fin de calculer numériquement phi. Alors n c'est facile. Pourquoi n c'est facile? Parce que n c'est gradient phi sur phi. Pardon, n c'est gradient phi sur module de gradient phi. Ça, ça fait un vecteur unitaire. Tout ce qui se passe à l'intérieur, on s'en fiche un peu. Et donc, si on est ici, on définit bien un vecteur unitaire dans cette région-là. Et le vecteur unitaire dans cette région-là, si phi, c'est les isopotentiels, c'est bien un vecteur normal unitaire aux isopotentiels. Donc ça, c'est bien n. Donc après, il faut calculer h. Et si on a calculé h en fonction de phi, on va retrouver ce qu'on obtient pour la force en déplaçant un point au bord. Et qui sera la force locale de rappel, qui est la tension de surface. Alors, ce que je vais vous calculer, c'est gradient phi. Alors, gradient phi, c'est 0 ici, c'est 0 ici, c'est 0 ici, puis ça chute brutalement ici sur une taille qui est epsilon que je veux faire tendre vers 0. Ça veut dire que si je prends une surface courbée, en gros, gradient phi, il est perpendiculaire à la surface, et donc il est le long du vecteur n. Donc je vais me placer là, et je vais prendre une coordonnée zn, qui est la coordonnée le long de n, dans ce référentiel-là. Donc gradient phi, c'est n fois d phi sur dzn. Puis après, il y a des toutes petites corrections qui sont dues au fait que, quand je change de point, mais il y a une petite dérivée dans ce sens-là, mais ça, ça ne va pas compter à la fin. Et après, je vais vous calculer laplacien phi. Ça, c'est divergence de gradient phi. Quand je prends la divergence, il va y avoir deux termes. Il va y avoir un terme qui va venir de la dérivée de Zn. Et si je me place dans ce référentiel encore, où ça, c'est un axe et ça, c'est l'autre axe, ça va simplement être la dérivée seconde par rapport à Zn, parce que toutes les variations dans ce sens-là sont bien plus grandes que les variations dans ce sens-là. Donc c'est d2 phi. Sur dzn carré. Ça, c'est ce terme-là. Et puis après, il y a un terme qui est la divergence de n. Donc plus d phi sur dz divergence de n. Et la divergence de n, quand vous avez une courbe comme ça, c'est la courbure. Donc c'est d2 phi sur dzn carré plus d phi sur dzn fois h, où h est la courbure. Là, j'ai presque ce que je veux, parce que d phi sur dzn, en fait, c'est le module de gradient phi. Donc, il faut que j'élimine ce terme-là. Comment je fais pour éliminer ce terme-là? Mais partout, même dans l'interface, en gros, l'énergie est minimale. Donc, le laplacien, ça va être d2 phi sur dzn carré, plus une correction qui est toute petite. Et donc, si je rajoute f' de phi, alors il faut que je mette sur epsilon 2 cette fois, ça va me faire ce terme-là, et ça va m'éliminer ce terme-là. Donc, pour éliminer ce terme-là, il suffit que je rajoute au laplacien cette contribution-là. Non, c'est f' de phi. Attendez, où est-ce qu'elle est? Non, c'est ici que je veux le faire. J'ai le Laplacien phi. Si je rajoute ce terme-là, comme dans la direction normale, c'est à peu près à l'équilibre, il va tuer le d de phi sur dzn2 qui est là, et il ne me restera plus que la courbure. Ça veut dire que la force capillaire, enfin, ou la force de Laplace, c'est f Laplace. Il l'appelle f gamma égal. Alors, il y a un gamma. Il y a moins gamma epsilon laplacien phi. Moins df sur des phi fois 1 sur epsilon. Ça, c'est le terme que j'ai rajouté pour enlever du gradient ce terme-là dont je ne savais pas quoi faire. Et puis après, il y a gradient phi. Sur epsilon, gradient phi au carré. Alors vous allez me dire, il va falloir que je fasse attention à ce qui se passe dans l'interface et à côté. Si je suis à l'extérieur de l'interface, phi égale 0 ou phi égale 1, donc ce terme-là égale à 0, celui-là est aussi égal à 0 parce que je suis là. Donc si je suis en dehors de l'interface, tout est égal à 0, heureusement, hein, je veux juste une force sur l'interface. Pourquoi il y a un gradient phi sur phi au carré? Gradient phi sur module de gradient phi, ça c'est n. Et puis il y a un 1 sur module de gradient phi qui vient d'ici. Maintenant, une autre façon, pour répondre à Françoise, de voir la largeur de l'interface, 1 sur epsilon module de gradient phi au carré, c'est aussi la largeur de l'interface. C'est la même chose. Parce que phi, il passe de 0 à 1 sur une longueur 1 sur epsilon. Donc ça, c'est 1 sur epsilon 2, ça fait epsilon 2 sur epsilon, et ça fait bien epsilon. Donc voilà la force due à la tension de surface. Alors ça, c'est simple, parce que, en tout cas, moi, je ne doutais pas une seconde qu'en partant d'une courbe comme ça, qui serait quelque chose qu'on aurait dans un fluide, il y a une tension de surface bien définie au niveau macroscopique, et on sait calculer la tension de surface au niveau macroscopique, donc ça paraît clair qu'on doit pouvoir l'écrire en fonction de phi. Après, ils ont un jeu qu'ils ne font pas explicitement, qu'ils vont chercher sur quelqu'un qui l'a fait avant. Alors l'article qui, pour les gens qui veulent regarder les calculs, alors ils le font à l'envers, hein. Ils déplacent un point de la surface ici, ils font la variation de l'énergie libre qui est là en déplaçant un point de la surface, il faut être assez prudent hein, quand on le fait. Et après, il vérifie bien que ça donne la formule qui est là, qui est celle que je viens de vous montrer. Ils ne se sont pas limités à la tension de surface, ils ont voulu rajouter une force de courbure. Je vais vous rassurer, on ne va pas y passer la nuit. Ça veut dire que il faut rajouter à l'énergie un terme supplémentaire qui, quand je fais la variation, va me générer, en plus de la tension de surface, la force de courbure, mais qui ne va pas perturber cette histoire-là, parce que, évidemment, si j'ai plus 0 à l'intérieur et 1 à l'extérieur, et que je change la tension de surface, je n'ai rien gagné en mettant la force de courbure. Il s'avère que c'est possible. Alors, je ne vais pas vous écrire l'énergie, parce qu'elle est un peu compliquée, mais l'article qu'il faut regarder, c'est un article de M. Loven Group, alors, je l'ai écrit ici, PRE 2011, et l'article que je suis en train de décrire, il a été fait par Chao et al. Fils rêve lettre 2000, je ne sais pas combien. Alors, je vais m'arrêter là. Simplement, je trouve l'idée du champ de phase intéressante, c'est-à-dire ajouter un champ, et vous allez voir qu'il y a une autre propriété qui est assez marrante dans ce qu'ils font après. Ça n'a pas été inventé pour les cellules. Les premières personnes qui ont fait ça, enfin au moins dans le domaine de la biophysique ou de la physico-chimie, ils ont fait ça pour les mouvements de vésicules sur des surfaces. Ça, c'est des gens à Grenoble qui s'appellent Thierry Biben et Shaoqi Misba. crois que c'est eux qui, les premiers, ont bien mis la courbure. Pour la cellule, j'ai un peu mes doutes d'ailleurs sur le fait que la courbure joue un rôle, mais que l'énergie de courbure joue un rôle. Mais pour les vésicules, c'est sûr que ça joue un rôle, et eux, ils avaient une méthode 3, et c'est la même. Ils disent que c'est la même qui est obtenue de façon différente. Je m'arrête là, je vous laisse réfléchir à ça. Je vous ai imposé un passage un peu théorique. La suite est bien plus simple. Voilà, sauf s'il y a des questions, que je suis bien sûr prêt de... Et on va générer des croissants, oui, sans souci. Attends. L'idée derrière, c'est qu'on veut remplacer toutes les forces dont j'ai parlé, dont certaines sont des forces de volume, par des forces qui agissent sur la surface. Maintenant, j'ai parlé de ces forces-là. Bien sûr, ce dont je parlerai la prochaine fois, c'est d'autres types de forces. En particulier, il faut qu'il y ait de la dissipation quelque part. Donc c'est ça qui me reste à décrire, mais une fois qu'on a compris le principe, il s'avère que les autres, c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est de faire ces transformations-là et de passer d'une description d'un système, en gros, à deux états avec une interface aux forces de Laplace. Alors, que, comme je disais, on peut le faire formellement. Si tu déplaces ce point-là, de dr, tu peux dériver ce machin-là et tu vas trouver la même loi que celle qui est là. Je l'ai fait, ça m'a pris un bon bout de temps. Après, je me suis rendu compte qu'en le faisant à l'envers, c'était bien plus simple. Et avec la courbure, j'ai même pas essayé, mais je suis tout à fait convaincu du fait qu'ils le font proprement. Je m'arrête là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais vous encourager à poser d'autres questions. J'aime bien quand il y a des questions. C'est pas très traditionnel au Collège de France, mais bon. Très bien, on arrête là. Donc je finirai ça et je vous montrerai les autres modèles la prochaine fois qui permettent de calculer des formes de cellules. Voilà, merci.